Déjà, le premier truc, c'est imaginez, vous rentrez dans les crypto-monnaies, d'accord? Vous voulez en acheter, vous voulez en vendre, c'est galère. Déjà parce que c'est très volatile, hein, qu'on ait des convictions ou pas en Bitcoin, le truc, il peut perdre ou prendre 30% cette nuit. On dort pas bien. Avant, le souci, c'est que quand on voulait acheter du Bitcoin, fallait faire un virement bancaire, en espérant que les banques ne nous bloquent pas. Fallait acheter son Bitcoin. Quand on avait gagné ou perdu et qu'on voulait revenir à l'euro, fallait rechanger et redescendre sur un compte en banque. Et c'est peut-être là que ça bloquait. C'est toujours pareil, c'est une question d'abus. Celui qui a le pouvoir finit par abuser à un moment ou à un autre, plus ou moins tard, pour de plus ou moins bonnes raisons, parce qu'à un moment on doit prendre des décisions et des fois il n'y a pas de bonne solution parfaite, on est obligé de trancher.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts ? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Durant ses études à l'EDEC Business School, il se passionne pour les crypto-monnaies et le Web3. Et il décide de lancer sa chaîne YouTube à ce moment-ci pour vulgariser ce secteur. Puis une fois diplômé en 2015, il lance Meria, une société d'investissement spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies, ainsi que d'autres sociétés dans le même secteur, pour devenir aujourd'hui une référence sur le sujet Web3 en France. Salut Owen, comment tu vas ?
Très très bien, merci beaucoup pour cette invitation.
Est-ce que je t'ai plutôt bien présenté ou pas ?
Très très bien, mais j'ai pas été diplômé. Je suis parti avant.
C'est vrai.
Ouais, j'ai pas eu mon diplôme.
Putain, on a un gros point commun là.
Mais ouais, j'ai arrêté en deuxième année quoi. Donc mon école m'a dit écoute, on peut te laisser continuer à distance. Du coup, j'ai fait les cours à distance et j'ai fait 1, 2, 3 sessions. Puis j'ai plus jamais rouvert l'application quoi.
Ils t'ont jamais proposé d'être prof ?
Ils m'ont proposé d'être prof. Ils m'ont proposé d'intervenir là-haut, mais c'est toujours pareil. C'est donner quelques heures de cours. J'allais raconter mon histoire et donner des cours alors que je suis encore en train de l'écrire. C'était pour moi pas adapté. Puis c'est quand même du temps. Fallait se déplacer sur l'île. Bref, c'était pas vraiment adapté à ce qu'on vivait et on devait déjà comprendre ce qui nous tombait dessus au jour le jour et on était rythmé par la demande quoi qui était assez forte donc on devait livrer
et délivrer.
Surtout que c'était ça donne envie d'aller faire un petit coup d'ego, tu vois, donner cours dans l'école qui t'a même pas filé ton diplôme, mais en réalité, c'était pas très nécessaire et j'avais du pain sur la planche.
Et aujourd'hui, je n'ai pas comme co-animateur Paul Terrasson-Duvernon, mais Inès.
Bonjour.
Qui est étudiante à Sciences Po qui est membre aussi des Global Shapers Paris. Comment ça va Inès ?
Ça va très bien.
Est-ce que je t'ai bien présenté, ça va ?
Oui, tu m'as bien présenté. Je suis très content d'être là.
Super, parle bien dans le micro, parce qu'après, si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas.
Ok, c'est mieux là.
Super. Owen, aujourd'hui, on va parler Web3, on va parler blockchain, mais pas dans son ensemble. Les NFT, on oublie, en tout cas, peut-être une autre fois. On parle de monnaie numérique. Moi, j'ai comme principale question, et c'est le goal de cet épisode, c'est ok, l'euro numérique, on en pense quoi ? La Russie l'a lancé il y a pas longtemps, je sais pas si t'as suivi, la Chine aussi. Essayer d'avoir un panorama un peu sur tout ça. Est-ce que du coup, pour commencer, je crois qu'Inès avait une question pour toi.
Oui, alors on va juste commencer un peu par définir les termes pour pas se mélanger entre monnaie numérique, monnaie électronique, crypto. Question tout simple, qu'est-ce que la monnaie numérique ? Quelle différence avec les cryptos ? Et comment ça fonctionne ?
Alors, c'est délicat parce que ce sont des définitions qui peuvent un petit peu varier dans le sens où la crypto-monnaie est une monnaie qui, de par nature, est numérique. Il y en a qui disent monnaie digitale. On entend les CBDC, donc les monnaies digitales. Ça représente tout le pan technologique, mais digital, normalement, c'est par le doigt, on parle de tactile. Donc, c'est vraiment... Bref, il faut savoir de quoi on parle. On doit se donner des petits signaux pour dire, voilà, là, je parle précisément de ça. Mais c'est vrai que ces mots se mélangent un petit peu partout. Et des fois, quand on parle de monnaie numérique, les gens parlent de crypto-monnaie tout de suite derrière. La monnaie numérique, c'est du coup toute la monnaie qui va s'échanger via la technologie d'Internet. Hein, mais on peut très bien dire qu'un virement bancaire d'une banque à une autre, c'est un virement de monnaie numérique. Le grand tournant de la monnaie numérique était par exemple annoncé par PayPal dans les années 2000. C'est le côté, il y a l'euro qu'on connaît, ok, il y avait le papier, mais on peut également faire des transactions depuis nos applications bancaires et réaliser des virements de monnaie numérique, entre guillemets. La crypto-monnaie, c'est une monnaie, certes, entre guillemets, numérique, mais qui est basée sur la cryptographie et sur la blockchain.
Qu'est-ce que c'est la cryptographie ?
Alors, la cryptographie, c'est la technologie sur laquelle est construite la blockchain.
Okay.
D'accord ? C'est basé, du coup, sur ce que l'on appelle la cryptographie asymétrique.
Okay.
Ça y est.
Déjà un mot compliqué à lancer.
En gros, pour faire très très simple et pour vulgariser, parce que évidemment je dois toujours simplifier le truc, mais quand on ouvre quand on veut créer son compte sur la blockchain, on va avoir deux choses, sa clé publique et sa clé privée. On va voir ça pour simplifier, on va imaginer ça comme un RIB et un mot de passe, d'accord? La clé publique, c'est le RIB, c'est cette adresse, on ne sait pas qui tu es, on ne connaît pas ton nom ni ton prénom, mais tu vas avoir une adresse qui ressemble à un RIB et c'est toi, elle t'appartient. Dès que tu vas vouloir dépenser l'argent en fait sur cette adresse, tu vas devoir prouver à la blockchain que tu es le propriétaire et à ce moment-là, montrer ta clé privée. Prouver que tu es bel et bien le propriétaire, que tu as bien le mot de passe qui permet de dépenser l'argent qu'il y a sur cette clé publique. Et en fait, cette clé-là permet de déchiffrer, entre guillemets, et d'utiliser ta clé publique avec les fonds que tu as dessus, quoi.
Ça, aujourd'hui, les banques, elles l'utilisent pas ?
Tout à fait, mais dans d'autres domaines, le domaine de la sécurité. Okay. C'est pas pour réaliser, pour faire des paiements, d'accord ? C'est pas pareil. Quand tu utilises de l'euro, c'est des écritures de compte qui sont évidemment à concilier avec la Banque Centrale Européenne, hein, bien sûr. Mais pour le coup, ce n'est pas basé sur une technologie de cryptographie, ce n'est pas basé sur une blockchain transparente comme est celle de Bitcoin qui te permet de voir s'il y a bel et bien les 21 millions de Bitcoin en circulation, oui ou comment. Tu n'as pas autant de visibilité. D'ailleurs, si je te demande combien est-ce qu'il y a d'euros en circulation ?
Ah, j'en sais rien.
Voilà, alors que Bitcoin, bah, il y en a un peu moins de 21 millions et il n'y en aura jamais plus de 21 millions.
Ok. Et comment les banques, les acteurs traditionnels, j'ai envie de dire, vous voient arriver, qu'est-ce qu'ils se disent ?
Aujourd'hui, il y a 3 ans ou il y a 7 ans ? Parce que ce n'était pas la même musique.
Peut-être même les 3. Ça a changé ?
Totalement. En tout cas, c'est en train de changer, ça se voit. Ouais. J'aime bien reprendre la citation de Schopenhauer qui disait... toutes les révolutions passent par 3 phases. Mmh. Au début, elle est ridicule. Oui, la blockchain, Bitcoin, la monnaie du futur, oui, bien sûr. Ensuite, elle est dangereuse. Ouais, mais c'est une monnaie indépendante qui fonctionne sans État, qui fonctionne sans tiers de confiance, qui fonctionne sans banque. C'est effrayant quand même, ce truc. On pourrait vite ne plus avoir besoin de nous. Et ensuite, la troisième phase, on est en train d'y arriver selon moi, c'est évident. En mode, mais évidemment, on a besoin, on est dans l'ère du numérique, il y a de plus en plus de choses qui sont entre guillemets digitales, du coup, pour revenir sur l'image de tout à l'heure. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas. On ne sait pas, quand on voit un chiffre sur une application mobile, est-ce que je suis vraiment sur l'application de ma banque ou est-ce que c'est juste un chiffre écrit dans un bloc-notes qui vaut rien ? Est-ce que l'argent qui est derrière, elle est utilisée par cet établissement ou elle est vraiment détenue sur mon compte, elle ne bouge pas ? Qu'est-ce qui garantit cette valeur ? Comment ? Quand ? Pourquoi ? Eh ben, il faut que technologiquement ça avance et c'est la blockchain petit à petit qui va, je pense, apporter des solutions. En tout cas, c'est ma conviction et ce serait pour moi la troisième phase, la phase évidente. En attendant, quand j'ai commencé à parler de blockchain et de crypto-monnaie en 2015-2016, j'étais dans le ridicule. En tout cas, c'est comme ça qu'on me qualifiait. Et puis, c'était encore plus drôle quand j'allais parler dans un établissement bancaire. Là, j'étais vraiment ridicule, surtout pour eux.
On t'interdisait d'ouvrir des comptes bancaires ou pas ?
Oui, sur nos sociétés, oui. À peu près une dizaine de refus bancaires sur notre première société. Mais on n'avait vraiment rien à perdre, alors on y a été quand même. On a réussi à s'ouvrir des portes. Et puis après, il y a eu la deuxième phase où ça y est, il y a commencé à avoir le régulateur qui s'intéresse et qui commence à poser des normes. C'est pas interdit ou autorisé, c'est... vous pouvez, mais en respectant telle et telle norme. Et à partir de ce moment-là, bah, quand c'est autorisé, y a naturellement de la demande, il y a des utilisateurs qui s'y mettent, il y a des entreprises, et puis après, quand il y a de la demande, bah, y a des banques qui suivent. Ouais. Tout simplement, parce que ça reste quand même le marché qui drive les produits qu'on crée et les besoins auxquels on répond, en fait. Et donc, petit à petit, comme c'était régulé et que ça devenait régulé, y avait moins de risques pour les grands d'y aller, et le risque s'est inversé. Avant, le risque, c'était d'être dans les crypto-monnaies, et puis c'était un peu sulfureux, parce qu'on comprenait pas tout. Et maintenant, c'est plus clair, on comprend mieux, c'est régulé, donc le risque, c'est de ne pas y être. Et là, on a eu des géants, mais de Tesla, en passant par PayPal, en passant par Mastercard et Visa qui se sont lancés là-dedans. Et puis en France, là, récemment, enfin, on a la banque Delubac, qui est régulée en tant que prestataire de services d'actifs numériques, Société Générale. On a le Crédit Agricole, qui en disait beaucoup de mal et qui d'un coup, on a une de nos filiales qui vient d'obtenir la licence, qui peut proposer des services sur les cryptos. Bref. On sent quand même que la température est en train de changer et les questions sont à la régulation et à ce qu'on a le droit de faire ou non et comment, plutôt que est-ce qu'on a le droit ou pas d'utiliser les crypto-monnaies, et ça c'est déjà une très bonne chose.
On va avoir l'occasion de revenir sur tout ça juste après, mais avant moi j'ai une grande question à te poser, c'est que D'où il vient ce revirement de situation? Quel avantage existe-t-il de une aux crypto-monnaies, de deux à la monnaie numérique et donc à l'euro numérique, parce que ça n'en a pas parlé. Mais la BCE travaille d'arrache-pied pour créer une monnaie numérique. Moi, je suis curieux d'ailleurs d'avoir ton avis là-dessus. Quels sont les avantages à tout ça? Pourquoi on réfléchit sur tout ça? Pourquoi les banques prennent le truc à bras le corps, qu'elles soient centrales ou alors de distribution, et se disent je veux y être?
Il y a des questions auxquelles j'ai pas la réponse, mais il y a quand même quelques indices qui sont assez excitants à analyser. Déjà, le premier truc, c'est imaginez, vous rentrez dans les crypto-monnaies, d'accord? Vous voulez en acheter, vous voulez en vendre, c'est galère. Déjà parce que c'est très volatile, hein, qu'on ait des convictions ou pas en Bitcoin, le truc, il peut perdre ou prendre 30% cette nuit. On dort pas bien, déjà. Mais avant, le souci, c'est que quand on voulait acheter du Bitcoin, il fallait faire un virement bancaire, en espérant que les banques ne nous bloquent pas. Fallait acheter son bitcoin. Quand on avait gagné ou perdu et qu'on voulait revenir à l'euro, fallait rechanger et redescendre sur un compte en banque. Et c'est peut-être là que ça bloquait. Donc quand l'argent sortait, c'est quand elle rentrait. C'était très très compliqué de faire circuler de la liquidité jusqu'au monde des cryptos. Et là, il y a eu les premiers stablecoins. Et ça, c'est super intéressant. Pour faire simple, c'est une crypto-monnaie, d'accord? Mais en gros, ils essayent de faire en sorte qu'une crypto égale un dollar. Généralement, elle est centralisée, donc la société qui émet ses 1000 stablecoins se doit d'avoir 1000 dollars dans un compte en banque pour garantir le collatéral, blablabla. Ça, par contre, c'était déjà très très utile et ça a tout changé, je crois, dès 2017, hein, 2016, 2017, c'était USDT, premier monnaie entre guillemets de crypto basée sur du dollar ou sur de l'euro. Et là, c'était beaucoup plus simple parce qu'en gros, les gens n'avaient pas à revenir d'euros vers les cryptos. Ils achetaient de la crypto-monnaie et quand ils voulaient se désexposer de la volatilité, ils achetaient le stablecoin. Et quand ils voulaient revenir, ils repassaient sur Bitcoin. Mais du coup, ça faisait crypto-crypto. On n'avait pas besoin de revenir sur un compte en banque, c'était beaucoup plus simple. Et là, il y a eu énormément d'usages, à tel point que la deuxième ou troisième plus grosse crypto-monnaie au monde aujourd'hui, la troisième, pardon, c'est USDT. Donc une grosse partie de la liquidité, c'est ces fonds qui sont sur la crypto, sur la blockchain, mais qui sont stables.
Et c'est quoi les usages que tu as trouvés?
Alors déjà, ça c'est un usage qu'on va trouver sur toutes les cryptos, qu'elles soient stables ou pas. Ouais. Déjà, ça fonctionne 24 heures sur 24, week-end et jours fériés. Ça s'arrête pas. Il n'y a pas de « oh, mais c'est samedi, mais en fait quand la banque va rouvrir ». Non, c'est un bloc toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Sur Ether, c'est encore plus court. Donc on peut faire des transactions en permanence. Ensuite, c'est totalement inarrêtable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui peut, sur du faciès, sur de la discrimination, sur n'importe quelle question de point de vue, de donner un accès plus qu'à un autre. Non, tout le monde a les mêmes droits avec la blockchain. Et nous, ça peut nous faire bien rire quand même, parce qu'on est dans un pays développé, il y a quand même une grosse partie de ces questions qu'on a mis derrière nous. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai exactement la même inclusion financière avec mon téléphone sur Bitcoin, que quelqu'un en plein milieu du Japon, que quelqu'un en plein milieu de l'Afrique, n'importe quelle personne qui est connectée avec du matériel informatique et une simple connexion Internet a les mêmes droits et les mêmes solutions financières que n'importe quelle personne. Dans le monde aujourd'hui, on a encore peut-être 1,5 milliard de personnes qui sont non bancarisées. C'est un gros game changer pour beaucoup de monde. Et surtout, il y a également des contraintes qui sont locales. T'es ici, tu dois utiliser le dollar. T'es ici, tu dois utiliser l'euro. T'es ici, tu dois utiliser le yen. Déjà, Bitcoin, c'est une monnaie mondiale. Ici ou au Japon, un Bitcoin, c'est un Bitcoin. On va trouver des gens qui l'accepteront et qui vont communiquer sur cette même valeur. Et sinon, je peux le changer en yens quand je veux. Là, en 2 minutes, sur mon téléphone, je peux avoir n'importe quelle devise internationale et je peux payer n'importe où grâce à la blockchain.
Et ça aussi, c'est un avantage.
Tu as des frais de transaction en fonction des blockchains, mais tu peux choisir le réseau blockchain que tu veux. Mmh. Pour expliquer ça simplement, j'aime bien dire chaque blockchain, c'est un tuyau et il y a plein de crypto-monnaies qui circulent dedans. Mais tous les tuyaux n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas le même fonctionnement, n'ont pas les mêmes frais de transaction, ce qu'on appelle la scalabilité.
Ouais.
Et donc, tu peux avoir des réseaux plus ou moins rapides, plus ou moins sécurisés et plus ou moins coûteux.
Et quand je te parle de frais, par exemple, si là, demain, je touche 10 000 euros... je touche du bois, qui viennent 10 000 dollars du Canada et je vais les transférer en euros. Si je passe par une banque classique HSBC, par exemple, pour pas les citer, ils vont me prendre un frais.
Tout à fait.
Un fee. Est-ce que si je transfère en Bitcoin et que le Bitcoin, je le transfère en euros, dans ce cas-là, j'ai juste le frais de transaction classique sur du Bitcoin?
Non. Tu vas quand même avoir un frais de change.
Okay.
Parce que la différence, c'est que tu ne vas pas payer, entre guillemets, plus de frais de transaction. Par exemple, je sais pas, t'es au Salvador, ta famille en Europe, elle veut t'envoyer, parce que c'est un tiers du PIB du Salvador, c'est que de l'argent d'expatriés, hein, tu vas tomber sur un Western Union qui te prend 30% de ta transaction. On parle pas de change. On parle pas de changer de l'euro dans la monnaie du Salvador, du dollar, peu importe. On parle de réaliser la transaction. Là, avec la blockchain, t'as un passe-droit. tu fais ce que tu veux, c'est ton argent, tu l'envoies où tu veux dans le monde. Après, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu veux réaliser un change, tu dois trouver quelqu'un qui a la contrepartie d'en face. J'ai de l'euro, t'as du dollar, bah, tu vas quand même m'imposer ton taux. Donc même dans les crypto-monnaies, tu vas tomber que ce soit sur des échangeurs centralisés, comme des plateformes, des établissements comme les miens d'ailleurs, hein, qui sont régulés, qui ont le droit de faire ça, ou que ce soit ce que l'on appelle des DEX, Decentralized Exchange, donc des protocoles qui te permettent d'échanger sans avoir d'entreprise en face de toi, tu auras quand même une commission de change. C'est vraiment la liberté de réaliser ces transactions qui, elle, n'est plus du tout la même, et on va pas te faire « Oh ben, comme c'est très compliqué d'envoyer de l'argent là-bas, tu vas payer très cher. » Non. Donc, tu as cette liberté, cette inclusion financière, ce côté immuable, inarrêtable de la blockchain. Hein. On parle d'un uptime, d'un temps de fonctionnement de 99,987%, je crois. C'est plus que Google, Twitter, Facebook, Amazon réunis. Le temps de fonctionnement depuis que le Bitcoin s'est lancé en 2009. Donc, c'est vraiment, vraiment un haut niveau de fonctionnement. Et en parallèle de ça, on prend souvent Bitcoin comme exemple parce qu'il est inarrêtable, mais il y a une émulsion de nouvelles solutions qui arrivent pour être plus rapide, pour pouvoir faire des transactions plus lourdes, pour être beaucoup plus performant dans les monnaies, dans toutes les transactions financières ou dans toutes les transactions de communication. Parce qu'une transaction, ça peut être un SMS en fait. Hein. C'est pas forcément lié à l'argent, même si c'est ce qui parle au cerveau humain, donc c'est souvent comme ça qu'on parle de la blockchain. Mais les transactions, c'est en réalité toutes nos interactions numériques. Quand on se connecte sur un site internet, on fait des transactions, on va chercher des paquets, on va les lire et on va en renvoyer. Et c'est ça en fait qu'on est en train de redéfinir avec la blockchain, c'est la façon dont on va réaliser des transactions, envoyer et recevoir de l'information et surtout en garder une trace immuable et un accès équitable pour tous.
Mais du coup, quand je t'écoute, moi je me dis l'euro get out quoi.
Bah alors oui et non, parce que j'ai du mal parce que j'ai appris la finance traditionnelle après les cryptos.
Ouais.
Donc j'ai découvert comment ça marchait une banque centrale, j'ai découvert qu'un jour ils se sont dit « Oh ben, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir de l'or derrière notre monnaie ?» Ils ont juste à nous faire confiance en fait, c'est très très bien la confiance.
On fait une signature sur
un billet. Voilà, et puis après ils disent « Non mais Bitcoin ne vaut rien, il n'a de valeur que la confiance qu'on lui porte. » Oui, c'est l'euro en fait, c'est à peu près pareil. Ça répond aux fonctions de la monnaie, en tout cas selon Aristote, ça permet du coup de réaliser ces transactions partout dans le monde. Il y a un côté encore volatile sur certaines monnaies, même s'il y a maintenant des monnaies plus ou moins stables. En attendant, ça correspond aux besoins pour moi et à cette interaction permanente qu'on a avec le web et le numérique aujourd'hui. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que la blockchain, c'est une certaine liberté. J'en ai parlé, personne ne peut saisir votre compte, personne ne peut le geler, personne ne peut te dire non, tu dépenses pas ton argent pour faire ça. Ce qui a malheureusement le trait d'attirer deux choses. La première, c'est que bah, du coup, tu peux faire n'importe quelle bêtise aussi. Si tu veux dépenser tout ton compte en banque pour acheter du maïs, je pense que ton banquier va t'appeler en disant « Écoute, réfléchis, je sais que t'es un entrepreneur, mais t'es pas dans le maïs. Tu vas peut-être faire une bêtise, tu vois. Si t'as vu une pub sur Internet et que tu veux tout acheter en maïs, c'est peut-être un peu... Ça, c'est une bonne chose. Le problème avec la blockchain, c'est que tu récupères également ta responsabilité. Si t'as envie de faire une grosse bêtise, personne ne t'empêchera de la faire parce que personne ne peut t'empêcher de la faire.
Ah, mais ça va. C'est peut-être intéressant aussi que tout le monde soit responsable de ses actions.
C'est très intéressant.
Ah,
c'est incroyable.
En termes de politique publique, moi, perso, je serais content que tout le monde soit responsable de ses actions, quoi.
Ah non, mais moi aussi. Mais ben, on est dans une société où il n'y a pas eu d'éducation financière, on ne parle pas d'argent à l'école, mais on est dans une société où il y a encore des gens qui cliquent sur « vous avez gagné un iPhone ce soir, sans rien faire, gagner 1 500 € par nuit ». Naturellement, tu es dans une société où cette liberté et cet outil puissant ne peut pas aller dans les mains de tout le monde.
Ouais.
On va revenir au sujet de l'euro numérique, mais avant ça, je vais rebondir sur quelques points que tu as mentionnés. Donc, c'est vrai que vision que je partage de la blockchain comme outil révolutionnaire à l'avenir, pas uniquement des projets de Nice, mais outil très utilisé. Mais si tu avais peut-être des risques ou plus des nuances à évoquer, parce que je conçois très bien pour tous ces sujets d'inclusion financière, mais peut-être que ce n'est pas applicable partout. Donc, quels gros risques, en fait, on peut évoquer autour de l'utilisation massive de la blockchain?
En fait, ça va dépendre. Déjà, parce que est-ce que c'est la monnaie numérique d'une banque centrale? Ou est-ce que c'est la monnaie numérique, genre une monnaie numérique comme Bitcoin? Parce que là, il y a déjà un changement énorme. Parce que pourquoi, pour moi, le gouvernement voudrait imposer une monnaie numérique de banque centrale? Je vais vous retourner la question. Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il y ait de moins en moins de cash?
Bah, pour pouvoir contrôler.
Voilà.
Pour avoir l'info.
Et le problème, c'est qu'encore une fois, la blockchain, c'est un super outil, mais ça dépend qui l'utilise et comment. Bitcoin est libre. Personne ne peut contrôler ce moteur. En gros, ils ont fait en sorte que le plus gros des requins n'ait aucun intérêt à devenir le maître de Bitcoin. Parce que le jour où Bitcoin a un maître, bah, tous les gens qui l'utilisent disent « mais en fait, il ne vaut plus rien ». Parce qu'en fait, on a réussi à créer un système où il y a quelqu'un qui a pris le trône, en fait.
C'est le paradoxe de la décentralisation, finalement,
tout
qui redevient...
Alors que bah, si tu as une monnaie numérique de banque centrale, ok, elle est basée sur la cryptographie, donc on pourra dire que c'est une blockchain. Elle ne sera pas décentralisée, elle ne sera pas transparente. Le gouvernement pourra saisir et prélever de l'argent sur votre compte en banque sans votre consentement. Le gouvernement pourra totalement geler des transactions, vous interdire d'en faire, et vous direz juste, en fait, elle n'a de blockchain que le nom, cette monnaie. Parce que ce sera juste que ce sera construit sur une blockchain, mais ce sera absolument pas les valeurs qui sont portées. Donc les risques peuvent aller d'un côté dans les monnaies numériques de banque centrale. Moi, je vois le risque un peu à la George Orwell. Vraiment, hein, c'est exactement ça, un monde Big Brother où encore plus de contrôle, où on pourra contrôler encore plus ce que tu fais, tes dépenses, ce que tu penses. Et c'est drôle parce que ça va un peu avec la société comme on l'a vu évoluer. Il y a quelques dizaines d'années, c'était le matériel informatique. Acheter mon ordinateur, acheter mon téléphone, acheter mes AirPods, c'est les plus puissants. Après, ça a un peu changé en mode, bon, ben maintenant, c'est le logiciel. Beaucoup plus scalable. On n'essaye pas de te faire acheter un ordinateur, faut le livrer, le logistique, tu dois acheter des composants. Non, là, logiciel, tu peux le vendre à n'importe qui, n'importe quel moment, copier-coller à l'infini. Et là, maintenant, on n'est même plus dans l'ère du software, on est dans l'ère de l'argent. Vraiment, je vends des voitures, oui, mais je peux te faire un prêt pour acheter ta voiture. Et là, tu te rends compte que tous les concessionnaires ont leur banque. Je vends des téléphones, oui, mais j'ai également Samsung et Apple Pay. Ça te permet de payer, tu peux carrément laisser ton argent chez nous. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, maintenant, c'est même plus ce que tu vas dépenser, c'est où est-ce que tu laisses dormir ton argent. Et donc, on est passé du hardware au software, au financier pur et dur. Et là, on se dit, bon, bah, il faut quand même que ça évolue. On a besoin de nouveaux types d'outils et naturellement de tous les risques qui vont venir avec parce que bah, c'était compliqué de perdre tout ce que l'on avait en une fraction de seconde il y a quelques années. Aujourd'hui, soit on va aller vers des monnaies très centralisées grâce à la blockchain et ce sera sûrement des monnaies numériques de banque centrale, les CBDC. Et là, la peur que ça me fait, c'est vraiment une peur de contrôle. Et à l'inverse, un monde totalement libre, avec beaucoup plus de liberté, totalement décentralisé à la blockchain, c'est très sain, mais c'est un monde de responsabilité forte. Et c'est un monde où bah, quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qu'il fait, quelqu'un qui ne sécurise pas ses accès, il peut tout perdre en quelques minutes, pas pour les mêmes raisons, quoi.
Mais là, quand on t'écoute, on se dit, les monnaies numériques de banque centrale, c'est une hyper mauvaise idée, limite c'est contre la démocratie, etc. Est-ce que ça va pas aussi permettre de développer les crypto-monnaies indépendantes type Bitcoin, Ether, etc. Parce que on va pouvoir acheter sa baguette de pain avec un euro numérique. Et du coup, potentiellement, on pourrait créer un système comme Visa qui permettrait de payer aussi sa baguette de pain en Ethereum, en Bitcoin, etc.
Visa et Mastercard le proposent déjà.
Okay. Et c'est ça, il y a un point que je comprends pas justement avec... Donc le lancement de l'euro numérique est prévu pour 2027. Tu disais que justement aujourd'hui les virements instantanés ou PayPal est assimilable à une forme de monnaie électronique. Mais donc quelle différence avec un euro numérique qui ne va pas remplacer donc tout ça foncièrement? Quelle différence entre avoir un euro numérique dans l'utilisation en tout cas avec ce qu'on peut déjà avoir là avec
pour nous rien du tout. Si c'est un euro numérique de banque centrale, d'ailleurs pour les utilisateurs et pour que ce soit facile à utiliser, ça ne changera rien. Ce sera des points dans une application mobile. On n'aura pas conscience de clés privées, de clés publiques et l'utilisateur pourra dépenser de la même façon. Ça va vraiment être dans l'administration et dans la gestion et le contrôle de ce réseau que ça va être intéressant.
Il y aura moins d'euros en circulation, par exemple
Bah alors non, je pense qu'ils en imprimeront toujours autant, mais sur leur blockchain, hein, pour le coup, je pense que le curseur du « on en imprime et on en supprime », ils aiment bien l'avoir et ils sont pas prêts de le lâcher. Contrairement à Bitcoin, d'ailleurs. Hein, Bitcoin, on peut pas en imprimer. Mais encore une fois, ça dépend des paramètres qu'on met à la blockchain. Et je pense que les paramètres ne changeront pas, ils auront un contrôle total dessus. Par contre, ils vont pouvoir beaucoup mieux tracer. Ils vont pouvoir beaucoup mieux suivre, parce que la blockchain... pour des besoins de décentralisation, est un outil transparent et traçable. Eux, ils vont utiliser cet outil. Alors encore une fois, je ne veux pas insulter l'avenir. Je ne sais pas comment il va être fait, cet euro numérique. Hein. Autant ils vont faire un truc juste, ils vont faire un truc beaucoup plus transparent, beaucoup plus pour le peuple, par le peuple. Je ne suis pas sûr du tout. Mais voilà, il ne faut pas non plus insulter l'avenir et imaginer qu'on est en train de faire le monde de George Orwell, parce qu'il faut y croire. Mais il faudra se battre quand même pour, et c'est sûr que pour eux, ce sera un outil de contrôle beaucoup plus puissant.
Oui, éviter les risques de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme.
Tout à fait. Alors ça, c'est évidemment possible, en
et
tout cas.
Et souhaitable.
Et souhaitable, très clairement.
Mais qu'est-ce qui ne serait pas souhaitable, par exemple? Moi, j'ai deux, trois idées, mais...
Je suis curieux de les avoir, mais moi, je pense que... C'est tout bête, hein, mais je pense que pouvoir ramener sa cheminée en hiver contre un billet de 100 euros, comme ça, c'est pas mal non plus. Je pense que un système trop, trop rigoureux est un système qui perd en flexibilité, et le petit billet pour aller à la boulangerie est important aussi. Alors, encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que le cash, le black, c'est bien. Non, mais c'est une petite flexibilité de la population qui a toujours rendu des petits services, et la plupart du temps, au peuple. Encore une fois, il y a ceux qui vendent de la drogue et qui font des empires basés sur du cash et qui auront plus de difficultés, mais ils trouveront toujours des alternatives. Je pense que le fait que tout soit numérique, ça peut également perturber, et on a peur, enfin moi j'aurais peur du fait que si un jour ça s'enraye, j'aimais bien d'ailleurs même les monnaies de banque centrale, j'aimais bien quand elles étaient backées par l'or, en tout cas j'aimais bien, j'étais pas là, hein, mais j'aimais bien cette valeur-là. Le fait qu'on puisse imprimer ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui... Je ne vais pas dire que ça crée de l'inflation, c'est trop simple, mais ça y contribue fortement. Et je le vois parce que plus il y a justement ce genre de comportement des banques centrales, plus on voit des gens qui viennent et qui disent « mais en fait, Bitcoin, c'est incroyable ». De par justement le fait qu'il n'y a pas une personne, un petit chimiste qui vient jouer avec la formule magique qui émet la monnaie et qui vient dire à chacun « non, mais fais-moi confiance, ce que tu as dans la main, ça vaut toujours 1 euro, ça a la même valeur qu'hier ». Non, parce que ça fait 3 ans, et en 3 ans, il y a eu X% d'inflation par an, et parce que pour régler d'autres problèmes, on a imprimé, on a dû trouver des accords, parce que l'Union européenne, c'est pas qu'un seul pays, c'est plusieurs, donc il faut aligner tout le monde, donc on doit faire des efforts, et pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais voilà, je pense en fait que pour des raisons de traçabilité et du fait que c'est toujours pareil, c'est une question d'abus. Celui qui a le pouvoir finit par abuser à un moment ou à un autre, plus ou moins tard, pour de plus ou moins bonnes raisons, parce qu'à un moment, on doit prendre des décisions, et des fois, il n'y a pas de bonne solution parfaite, on est obligé de trancher. C'est également ça, le pouvoir, c'est également ça, la politique. On essayait de desservir un minimum de monde, mais on en dessert toujours quand on prend des décisions qui doivent convenir à la majorité. Et donc, à ce moment-là, je pense que ce sera quand même une perte de contrôle, et je pense qu'il va y avoir une scission entre ceux qui veulent de la liberté et ceux qui veulent même un respect de leur vie privée, un anonymat... On commence à être très numérique, donc on commence à tout fliquer tout le temps, partout, et on commence à limiter les zones d'ombre pour limiter les abus, mais en faisant ça, on limite également la liberté.
Et tu me fais une transition toute faite pour souligner que aujourd'hui, c'est uniquement, je devrais pas dire des dictatures, mais j'ai dit le mot, qui ont lancé des monnaies numériques. Je peux penser à la Chine et à la Russie. Est-ce que tu as suivi ça un peu, tu as suivi ces lancements, tu as vu ça un peu évoluer ou pas tant que ça?
Alors, pas tant que ça, parce que on en parle et il y a encore peu de détails.
Il y a l'Australie aussi qui est en train de développer pas que des dictatures.
Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que on va voir, est-ce que c'est l'Australie qui va lancer sa monnaie numérique, d'accord? Ou est-ce qu'à un moment, on va avoir le géant américain qui dit attendez, il y aura un seul dollar numérique et c'est nous qui allons les mettre. C'est pareil. Actuellement, il y a 25 stablecoins basés sur le dollar. Qu'est-ce qui nous dit que quand la Fed elle va lancer son stablecoin dollar, elle va pas dire voilà, maintenant toute monnaie adossée au dollar est interdite. Vous devez utiliser celle-là.
Et comme on peut utiliser partout dans le monde, ça peut même ruiner des monnaies.
Vous êtes qu'elle pourrait faire ça.
Et c'est un des trucs qui a été reproché aux États-Unis. Pourquoi le Salvador fait de Bitcoin sa monnaie officielle? Parce que le Salvador devait utiliser du dollar américain. Et en gros, c'est très simple. Un pays qui utilise le dollar, il obéit aux États-Unis. Ça fonctionne comme ça. C'est une arme qu'a utilisé les États-Unis depuis toujours. Et maintenant, quand on voit des pseudo-dictatures ou des dictatures, ou en tout cas, je suis plutôt d'accord avec le terme, ce que je veux dire, c'est que quand on voit la Chine, ce qu'elle fait, quand on voit qu'elle n'a pas attendu la blockchain pour se dire « Eh, mais en fait, il y a beaucoup d'habitants. Gérer beaucoup d'habitants, c'est compliqué. On va mettre un score, on va les fliquer, on va autoriser ça, et on va petit à petit mettre en place une dictature, parce que c'est beaucoup mieux de gérer un troupeau quand les règles sont bien définies, bien établies. » Et tu te rends compte petit à petit que, voilà, est-ce que c'est la vie qu'on aimerait avoir?
T'aurais aimé que des acteurs comme la BCE appellent des acteurs du Web3 et des acteurs de l'économie, on va dire, de terrain, type par exemple des acteurs comme toi et des chercheurs en économie, pour créer cet euro numérique et que ça soit fait par des citoyens éclairés de points de vue différents, autres que par des technocrates
Ça aurait pu apporter naturellement de l'eau dans leur vin, ça c'est sûr. La première personne qui me vient en tête, c'est genre un Yorick de Monbine, qui était un personnage que j'adore. Enfin, il m'a ouvert les yeux et il m'a appris beaucoup de choses sur la monnaie, l'argent, son fonctionnement. Mais toujours, ce sont des personnes qui sont vraiment qui ont beaucoup de liberté et c'est pas forcément compatible avec une décision aussi grosse que celle d'une banque centrale comme l'Europe, par exemple. Parce que, encore une fois, ça doit correspondre aux besoins et aux envies de tous les gouvernements. Tous les gouvernements ne souhaitent pas que le peuple soit totalement libre. Plus il est libre, plus il donne son avis, plus il est compliqué à contrôler, ou et même des fois pour de bonnes raisons. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pas qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle loi, on s'arrête et on fasse voter tout le monde. Si tu as une nouvelle loi pour les entreprises du BTP, j'ai pas envie qu'on prenne 10 civils dans la rue au hasard et qu'ils choisissent la loi. On va sûrement avoir une bonne loi pourrie. Donc, je suis pas non plus pour une liberté absolue et que tout le monde ait son ardoise et dire « moi, je pense qu'on devrait faire ça ». Sinon, on changerait de président toutes les 15 minutes. Ouais, ça. Parce que le président, c'est la personne qu'on va détester pendant 5 ans. Bref, on est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé que ce soit un peu plus consulté. Ils ont déjà consulté pas mal d'entreprises. Et évidemment, on va se tourner vers beaucoup de technocrates. On va se tourner vers des grands groupes, des grands noms. Mais les consulter, oui. Maintenant, je me rends compte qu'être consulté, c'est bien. Être considéré, c'est beaucoup plus compliqué. Je le vois dès qu'il y a une discussion politique et moi, j'arrive un peu comme candide dans ce monde-là en mode « oui, mais ce serait stupide de faire ça, pourquoi ils le feraient ?» Ouais, mais en fait, toi, t'es en première lecture. En deuxième lecture, ils vont faire ça parce qu'il y a eux qui veulent ça. Globalement, t'as tel pays qui n'a pas les mêmes enjeux et qui, pour rentrer sur cette monnaie, et si tout le monde doit utiliser la même monnaie, le même euro, il va falloir qu'on s'aligne sur tel et tel point. Mais on comprend pas tout parce que, ben, naturellement, on voit notre scope, on voit nos intérêts, et quand on dézoome, on dit, OK, il y a les intérêts des autres, il y a des services rendus, il y a tout un système beaucoup plus complexe que notre petite personne qui doit tourner, et... Là, je vous parle que des Français. À côté, t'as d'autres pays qui fonctionnent pas du tout, qui ont pas du tout la même approche à l'argent, la même approche de la valeur. Et puis, t'as des pays aussi qui y a jamais eu aucun problème. Leurs banques n'ont jamais abusé. Et ça se passe très, très bien. Et pourquoi souhaiter de décentralisation quand on est dans un pays développé où les banques n'ont jamais abusé, par exemple? Moi, je suis, par exemple, contre ceux qui disent on doit tout décentraliser, on doit tuer les banques, on doit... Non. Moi, faut juste qu'on ait le droit d'avoir un plan B. Qu'on ne nous interdise pas d'utiliser Bitcoin comme bon nous semble et d'avoir cette liberté de me dire voilà, si demain je sens une crise financière arriver et que je vois que ma banque est en train de plier le genou, j'ai une alternative. J'ai pas juste à faire mon ticket support en mode si la banque fait faillite, vais-je m'en sortir? Non, je trouverai moi-même des solutions et je me baserai sur la technologie plutôt que d'attendre que le gouvernement me dise bon bah ok, on a réussi à couvrir 70% de votre solde parce qu'on est gentil et bref.
Ce que tu dis, on sent bien qu'il y a un impact politique qui peut être énorme au déploiement d'une monnaie numérique de banque centrale. Est-ce que tu penses que, je crois que c'est en 2027 que ça va être lancé en France, ou en tout cas déployé en Europe, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des crises à ça? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un soulèvement de la population où en fait les gens ne sont pas informés, ne savent pas l'impact que ça va avoir sur leur vie et vont le subir plus que le vivre?
Totalement. Je c'est le pari que je prends.
Et c'est problématique?
Pour moi, oui. Parce que du coup, ça va entériner le truc. Maintenant, je me dis, en fonction de comment c'est fait, les gens vont peut-être devoir apprendre à gérer quelques outils. Si ça fonctionne un petit peu comme les crypto-monnaies, bah, si tu veux ton euro numérique, tu vas devoir avoir ton wallet. Si tu as ton wallet, tu peux recevoir du Bitcoin. Si tu apprends à recevoir du Bitcoin, tu as toujours un petit fou qui un jour vient et te raconte l'histoire de... Tu sais pourquoi ça a été créé à la base? Bah, pour tout l'inverse de ce qu'on est en train de faire.
Comment lever ces freins à l'accessibilité?
Ça, pour moi, c'est principalement l'expérience utilisateur et cacher les détails. On utilise tous Internet aujourd'hui.
Mais on ne sait pas forcément coder.
On ne sait pas ni coder, ni comment fonctionne le protocole TCP/IP. Bah, c'est exactement pareil. En fait, pour moi, le fameux ridicule, dangereux, évident, pour aller dans l'évidence, il faut que ce soit smooth. En fait, ça doit être super simple. Et donc, là, je parle de clés privées, de clés publiques. Bon, quand il n'y aura même plus de clés privées, clés publiques, quand il y aura adresse email, mot de passe, tout le monde va l'utiliser comme si c'était PayPal, une application N26, Société Générale, peu importe. Derrière, ce sera de la blockchain. Les transactions seront réalisées et exécutées différemment. Mais dans notre usage à nous, ce sera quand même un device informatique sur lequel on tape notre pseudonyme, notre mot de passe, peut-être des identifications renforcées avec, je sais pas moi, le Face ID, des trucs comme ça, ce qu'on appelle des 2FA. Et ce sera important. Parce qu'avant, ben, y avait un problème, vous appelez votre banque et ils pouvaient vous rembourser. Dans la blockchain, il y a un problème, vous appelez personne. Vous avez perdu. Donc, c'est ça qui sera important, mais je pense que c'est vraiment une interface utilisateur simple et surtout de connecter les codes de l'ancien monde de la finance avec les tout nouveaux, parce qu'en fait, ce n'est que l'infrastructure de ce système de paiement qui va changer et non pas du tout l'interface d'interaction que nous, utilisateurs, avons.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
C'est ce que tu fais avec Meria.
Tout à fait, ouais. C'est exactement ça.
Et du coup, est-ce que demain, les banques vont pas vouloir remplacer Meria ou... Ouais.
Meria est une société d'investissement dans les crypto-monnaies qui propose déjà de changer des cryptos en euros et des euros en crypto-monnaies, mais également de conserver cette crypto-monnaie sur une plateforme avec une interface relativement simple, un peu comme une plateforme qui permettrait d'acheter des actions en bourse, sauf que nous, on permet d'acheter des crypto-monnaies et de les faire travailler. Et comme il existe différentes façons, que ce soit de la liquidity providing dans la finance décentralisée, que ce soit ce que l'on appelle du stacking, c'est-à-dire bloquer ses crypto-monnaies pour sécuriser la blockchain et participer au réseau, que ce soit du lending, des prêts et des emprunts de crypto-monnaies à d'autres utilisateurs. Bref, il y a plein de choses qui permettent de générer des intérêts. Nous, notre métier, c'est d'adresser les particuliers, les petites, grandes entreprises, mais également les institutions financières, et de leur donner des outils simples et des outils qui sont totalement régulés, donc conformes à la loi, pour interagir, investir et s'exposer aux crypto-monnaies.
Mais est-ce que du coup, demain, si on lance un euro numérique, il sera distribué par les banques de détail, ils vont exactement prendre ton positionnement, ils vont dire soit je rachète Meria et je l'intègre, soit je le tue, soit de toute façon je suis tellement fort que j'interdis à Meria de distribuer l'euro numérique. Et c'est uniquement chez moi que ça se passe.
Alors sur de l'euro numérique, c'est possible. Encore une fois, on ne sait pas comment, parce que la banque centrale va peut-être vouloir elle-même gérer et distribuer cette supply. Normalement, elle n'est pas équipée pour. Elle a besoin des banques de détail, ne serait-ce que pour toutes les obligations de conformité, KYC, tout ça, elle n'est pas câblée. Mais si on parle de la monnaie numérique de la banque centrale, je pense que tout le monde devra pouvoir avoir accès à ça. S'il lance une monnaie numérique et qu'il commence à dire « certaines entreprises n'ont pas le droit, d'autres oui », c'est très sélectif et ça semble très arbitraire comme décision. Donc je pense qu'ils pourront pas, les banques de détail, dire « oui, on va le tuer ». Non, non, on a les mêmes outils que vous. Donc vous n'avez rien tué du tout. Deuxième chose, les entreprises, les grands noms bancaires restent quand même des entreprises qui sont là pour faire du cash ou pour s'occuper de leurs actionnaires. Et à un moment, pourquoi tuer ce qui te rendrait plus fort si tu l'absorbais ? Donc il y a des établissements bancaires qui vont racheter massivement des sociétés crypto. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas que des crypto-monnaies de banque centrale. Et heureusement, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui nécessitent... Allez, je donne un exemple. Tout à l'heure, je parlais des solutions pour générer des intérêts sur ces cryptos. Si tu as du token Polygon, d'accord, le token Matic, et que tu veux générer des intérêts, eh bien, il faut que tu le bloques dans un validateur. C'est un serveur informatique qui va valider les transactions. Il faut une expertise pour monter ce serveur informatique, pour le maintenir. Ensuite, il faut bloquer et sécuriser la crypto-monnaie à l'intérieur. Là, c'est la crypto-monnaie, il faut savoir la sécuriser pour que personne ne puisse la voler, tout en sécurisant le réseau et obtenir des intérêts. C'est une expertise. Ça ne se crée pas d'une minute à l'autre. Une banque ne peut pas dire « Allez, demain, on va embaucher 20 bonhommes pour gérer des validateurs sur 30 réseaux. » Non. Ensuite, tu as des réseaux, ils ont maximum 200 places. Donc, si t'as pas ta place, tu fais la queue, quoi. T'attends. Et donc, tu vas plutôt aller racheter la place de celui-là qui est déjà en place depuis 5 ans parce qu'il a cru à la crypto-monnaie alors que toi, t'étais encore en train de dire « Bitcoin, ridicule, ça ne marchera jamais ». Et donc, il y aura des vrais intérêts d'acquisition et je pense qu'on va avoir des modèles hybrides, soit des pure players crypto qui vont devenir des établissements financiers, c'est un peu le chemin qu'on est en train de prendre avec Meria, soit des établissements financiers qui vont commencer à ouvrir la porte aux crypto-monnaies. Société Générale qui en 2017 a créé Forge, qui est un monstre de cette industrie, en tout cas qui est très en avance, et on va avoir des institutions au milieu des mariages en fait, des mariages, des fusions, souvent les acteurs crypto absorbés parce qu'ils sont quand même plus petits, mais on a déjà, je pense qu'au prochain bull run, donc la prochaine explosion des crypto-monnaies, si elle arrive, et j'y crois dur comme fer, on va avoir des établissements crypto qui vont arriver, qui vont dire ok, moi je mets X milliards sur la table et cette banque, c'est à moi. Ça dégage.
Et on en est où au niveau de la régulation ? Là, aujourd'hui, à l'échelle européenne ou mondiale ?
Alors, à l'échelle européenne, on a une base sur ce que les entreprises doivent avoir comme licence pour pouvoir proposer des services sur actifs numériques, autour de 4 grandes activités. Le marché secondaire, en gros, le fait de proposer une plateforme qui permet aux gens de venir acheter et échanger entre eux. L'échange crypto-crypto, l'échange crypto-monnaie fiat, crypto-euro-crypto, et la détention de crypto-monnaies pour compte de tiers. Pour avoir le droit de détenir des cryptos au nom d'un client, il faut avoir cette licence. Elle est en train d'évoluer, elle va devenir beaucoup plus robuste, parce que ça, c'est ce qu'il y a en France. Ça a été calqué pour ce qui va y arriver au niveau européen, qui s'appelle MiCA. MiCA qui rentre en vigueur, si je dis pas de bêtises, le 30 décembre 2024. et qui va dire, voilà, maintenant, si vous voulez proposer des services, ce genre de service-là, vous devez, un, avoir l'enregistrement ou enfin la licence, vous devez, deux, avoir un serveur, des services informatiques avec tel niveau de sécurité qui ont été audités, qui ci, qui là, vous devez respecter toutes les normes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les déclarations à Tracfin quand vous avez des doutes, etc., etc. Vous devez être câblé et monitoré, avoir des levées de doutes, avoir de suivre les transactions qui sont les plus douteuses, etc., etc. Tout plein d'obligations qui ressemblent fortement à des obligations d'établissement financier bancaire.
Et c'est une bonne chose, donc, ça ressemble fortement à des obligations de banque, finalement.
De manière générale, oui, parce que je me rendais compte petit à petit quand même. Enfin, au début, j'étais là en mode, ouais, mais attends, mais t'as Madame Michu qui veut acheter du Bitcoin, on lui demande nom, prénom, où est-ce que t'habites, qu'est-ce que tu penses, quel est ton salaire, quelle est ta tranche de salarial, qu'est-ce que tu fais comme métier. C'est fliqué un peu quand même, c'est un peu effrayant, quoi. Et d'un autre côté, ceux qui veulent pas donner ces informations-là sont souvent ceux qui se cachent. Mais c'est toujours pareil. D'un côté, je trouve ça normal, jusqu'au jour où il y aura une base de données qui va fuiter, ou pourquoi pas un gouvernement qui va utiliser les informations qu'il a sur sa population pour savoir, OK, où est l'argent, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que je vais interdire. Et à ce moment-là, je serai de l'autre côté en disant, ouais, c'est un abus. On a donné des informations pour éviter les abus, et en réalité, l'abus a été créé par celui qui prenait toutes ces informations pour protéger le peuple. C'est très délicat, c'est comme l'anonymat parfait, c'est l'exemple que je prends souvent. Je suis pour la vie privée, je suis pour l'anonymat, on a le droit de protéger ce qu'on fait à tous les égards. En attendant, ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment rester anonymes et être intraçables, c'est pas pour cacher la marque de yaourt que tu commandes, parce que ça te regarde, tu vois, non, c'est souvent pour faire des choses graves. Donc, c'est dur et je pense, en tout cas, c'est ce que je dis quand on me pose cette question, j'ai pas la réponse et je pense qu'elle va être très, très dure à trouver. Ce sont des entre-deux de confiance. Et au moins, la blockchain permet d'avoir un peu plus de granulosité dans les solutions qu'on va proposer.
Inès, est-ce que tu veux poser une question justement sur la recentralisation de la finance décentralisée ou...
Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Ça peut être intéressant. On pourrait faire un parallèle aussi avec même le scandale FTX, pas de monnaie numérique, mais plutôt sur le sujet d'effondrement des cryptos, qui est une forme finalement de recentralisation, puisqu'il y avait un manque de transparence là-dessus. Quel est ton regard là-dessus un an après et aussi comment expliquer aussi la baisse actuelle là des cryptos?
Ah ouais, alors la toute dernière question, c'est un autre sujet encore.
Ok, d'accord, on va diviser là.
Ok, non, le... Naturellement, c'est tout bête, mais même si la crypto-monnaie décentralise et permet à chacun de réaliser tout ce qu'il veut dans son coin sans avoir besoin de personne, c'est plus ou moins complexe et il faut avoir envie de creuser. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit « Ouais, mais moi, je fais un outil où vous savez quoi, donnez-moi votre identité et moi, je m'occupe de tout ça pour vous. » Donc oui, la centralisation, c'est la simplification. On est dans un monde où tout a été simplifié. Tout est très simple. On veut que tu puisses envoyer ton argent en cliquant sur le bouton vert. On veut que tu puisses recevoir en cliquant sur la flèche qui descend. Et c'est simplissime. Et du coup, revenir à la blockchain, revenir à, écoute, débrouille-toi, va générer ta seed dans la blockchain, chope ta clé privée, chope ta clé publique, va mettre ça dans un truc open source et va faire tes transactions sans qu'on puisse rien te dire. Non, moi je veux juste aller sur une plateforme centralisée qui me permet d'acheter 280 cryptos au même endroit et d'en faire ce que je veux. Donc oui, c'est de la recentralisation de la finance décentralisée, totalement. Après, quand on voit des scandales comme FTX, donc je rappelle, une plateforme d'exchange qui s'est effondrée et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas tout l'argent de leurs clients et qu'ils l'utilisaient pour faire de mauvaises choses, bah les gens disent « Ouais, la crypto-monnaie, c'est un sacré foutoir quand même ». Non, non, c'est une plateforme centralisée qui n'a pas respecté ses obligations.
Autrement dit, c'est une banque qui a fait de la merde, quoi.
Exactement. C'est juste qu'elle utilisait des cryptos, quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, soit vous avez confiance dans l'établissement que vous utilisez, soit vous pouvez récupérer votre liberté, mais à vous de faire le travail qui va avec, quoi. Et du coup, mine de rien, il y a une bonne nouvelle à FTX, une bonne nouvelle à ce crash horrible, même si ça emporte beaucoup d'argent de beaucoup de gens. Les gens ont réappris à utiliser des wallets décentralisés, les gens ont réappris qu'il faut pas trop laisser sur les exchanges, les gens ont réappris, et il y a quelqu'un qui finalement s'est mis à la table en mode « mais j'ai tout perdu dans les cryptos », et il y a quelqu'un qui lui a dit « mais tu sais à quoi ça sert à la base ?»
Oui, le cœur de la philosophie.
Tu sais que ça sert pas du tout à faire ce que t'as fait ? Donc les leçons sont bonnes, mais c'est comme quand il arrive un hack dans la finance décentralisée. Ce hack nous permet de lever le jour sur une faille qui va être corrigée et qui va permettre d'avoir une V2 plus résiliente. Même si on n'a plus la confiance en ce protocole, c'est pas grave, il faut qu'il y ait de l'incrémentation. On n'apprend jamais mieux à faire du vélo que quand on s'est cassé la gueule parce qu'on n'avait pas l'équilibre. C'est exactement pareil, comme tout grosse innovation et tout gros changement, on doit incrémenter, on doit essayer. Et si on n'a pas le droit de faire d'erreur, on n'aura pas de solution entre guillemets parfaite, parce qu'elles ne le sont jamais de toute façon parfaites.
Et du coup, l'euro numérique, il ne sera pas du tout aussi volatile que le bitcoin ou que l'Ether ou que tout ça.
Ah bah, par définition, l'euro numérique, un token égale un euro.
Oui, il est backé par la Banque Centrale Européenne.
Donc on reste sur le même système là-dessus.
Ouais, ce serait le but. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, donc autant ils vont dire « Ouais, on va créer une monnaie du gouvernement mondial. 33% de dollars, 33% d'euros, 33% de yuan, j'en sais rien. » Mais non, la Banque Centrale Européenne, qui a pour vocation de battre monnaie, va très probablement pas s'adosser au dollar ou au yuan pour proposer sa monnaie à ses citoyens. J'en suis quasiment certain.
Et ça changera quelque chose du coup au système classique ou...
Oui, les infrastructures, le fonctionnement, le contrôle que le régulateur aura sur les établissements financiers, ce qui limitera leurs abus, je pense.
Mais à part ça, ça changera pas.
Dans l'usage, je pense pas. D'ailleurs, si ça change trop dans l'usage, ce sera mal adopté. Parce que les gens n'aiment pas se prendre la tête.
Mais peut-être qu'à l'échelle internationale, il y a peut-être un risque aussi qu'une monnaie numérique étrangère bien gérée puisse devenir un substitut à une monnaie locale.
Alors, totalement, parce qu'elle sera d'une accessibilité folle. Et d'ailleurs, depuis que je suis dans la blockchain, j'utilise plus beaucoup d'euros, quoi. Moi, j'utilise le dollar, hein. Pourquoi ? Parce que les Américains, dans le doute, ils ont dit faites des stablecoins dollars, on verra pour la régulation. L'Union Européenne, il y avait 2-3 petits stablecoins euros qui se battaient en duel, ils ont mis des obligations lourdes. Et puis après, les mêmes qui se plaignent de l'hégémonie du dollar d'ailleurs, hein, c'est assez drôle. Hein, mais en attendant, c'est vrai. Et ça va faire du mal d'ailleurs à des petites monnaies locales qui n'auront plus sens, dans le sens où ce sera vraiment facile d'utiliser, quoi. Vraiment, vraiment facile.
Moi, j'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que que Visa permettait de payer en Bitcoin. Est-ce que aujourd'hui, je peux payer ma baguette de pain ou mon repas de midi, si j'ai le temps de manger à midi, avec du Bitcoin?
Totalement.
Ouais.
Il y a plein d'établissements qui proposent une carte de paiement. Et en fait, la question quand on paye, c'est en quoi est faite la compensation? Parce que on paye avec sa carte, l'établissement bancaire va compenser Visa de la transaction du montant qui doit être dû au commerçant. Mais en gros, à partir du moment où Mastercard accepte la compensation Bitcoin, je donne un exemple, Binance propose une carte crypto. Quand on va payer 20 euros, on réalise un paiement de 20 euros. En réalité, il y a Binance, c'est Visa, je crois, c'est pas Mastercard. Il y a Visa qui va prélever 20 euros à Binance et Binance qui va prélever 20,20 centimes à l'utilisateur en crypto. Mais pour l'utilisateur, lui, il a payé en crypto, il a compensé son paiement en crypto-monnaie. Crypto.com aussi. Et il y a carrément Mastercard qui avait fait des partenariats directs et qui proposait ce genre de service.
Et ça, toi, tu l'utilises ou pas?
Ouais, totalement.
Ouais, au quotidien, tu payes.
Alors, au quotidien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la fiscalité est mal faite. Et techniquement, à chaque fois que tu repasses de la crypto-monnaie en euros, tu dois recalculer l'entièreté de ce que tu as et payer tes 30% de flat tax. Ce qui est totalement adapté quand tu échanges, 10% de ton portefeuille pour prendre des plus-values, ok? Quand tu vas payer 2,45€ dans une boulangerie et que tu te dois de dire 2,45€, je dois recalculer l'entièreté de mes crypto-monnaies, j'ai fait 23% de profit, donc dans les 2,45€, il y a 50 centimes de profit, donc la flat tax, c'est 30%, mais pas adapté. Et donc, pour des raisons de suivi et de faisabilité, j'utilise pas trop les cartes crypto parce que moi je sais que le fisc va venir à un moment me dire coucou, on a vu ce que t'as déclaré là cette année, du coup on s'est dit on allait quand même faire un check-up, alors que moi je sais que mes parents utilisent quand t'es de surtout que je me cache pas quoi, et alors que oui dépenser quelques centaines d'euros de crypto-monnaie c'est pratique.
Et ça, Aurore Berger, donc il y a au Parlement européen qui taffe sur Mika, elle a aussi ce sujet-ci un peu sur dans le viseur ou pas?
Très honnêtement, je suis pas capable de répondre.
Okay.
Peut-être, mais je ne sais pas.
Ouais. Parce que ça serait bien que ce soit aussi simple que ça.
Encore une fois, le marché, la demande et les usages font que ce sera nécessaire. Encore une fois, si tout le monde veut du bleu, ils vont faire du bleu. Hein. Y a pas de... C'est pour ça que c'est très important de faire la prise de conscience de tout le monde et de ce qui se passe. Parce qu'à un moment, si le jour où ils font une monnaie de banque centrale abusive et qui leur donne trop de droits, t'as 100% de la population qui boycotte l'euro, ils vont vite faire un truc, un entre-deux cool. Non, pourquoi ça va passer? Parce que bah, les gens s'en fichent, parce que c'était déjà comme ça hier, et parce que quand on va changer d'outil, à partir du moment où ça ne change pas leur habitude, comme on l'a dit tout à l'heure en fait, hein, ça va s'immiscer tranquillement, sans rien dire, et le jour où on se dira, mais en fait, on m'a eu là. Ouais, mais ça fait 7 ans qu'on t'a eu en fait.
Tu sais ou pas, c'est quelle proportion de la population qui utilise des cryptos, c'est quelle proportion de la population qui est sensibilisée à tous ces sujets?
J'ai envie de dire entre 5 à 15% en fonction des études. Ouais, il y a toujours des... Oui, une personne sur deux en a... Aujourd'hui, une personne sur deux en a déjà entendu parler. En tout cas, c'est ce que je constate. Et je dirais qu'il y a une bonne personne sur 10. Une bonne personne sur 10 qui soit en a déjà eu, soit s'est déjà intéressé un peu plus que le nom Bitcoin, soit a déjà essayé un NFT ou a déjà interagi avec quelque chose de Web3, de... Voilà.
Très masculin aussi, comme...
Oh, très masculin. Bah, un peu comme les domaines de la tech et de la finance, pour le coup. Et encore plus, hein. Enfin, moi, je veux dire, 650 000 abonnés sur YouTube, j'ai 5 ou 4% de femmes. Après, ça bouge un petit peu, parce que dès que tu vas sur du TikTok ou du Instagram, je monte plus sur du 10%, parce que c'est le réseau qui veut ça. Donc, c'est pas qu'une question de sujet, c'est aussi une question de réseau. Mais c'est vrai que j'ai quand même...
YouTube, quand même. Ça reste très utilisé aussi par tout le monde. Ok, on va couper. On va couper.
Non, c'est très utilisé par.
Non.
Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les domaines, par exemple, blockchain artistique, des NFT, okay. Il y a beaucoup plus de femmes.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup plus. Dans les domaines purement financiers, purement DeFi, il y a beaucoup moins de femmes. Je me rends compte que ça dépend quand même des segments, ça dépend des centres d'intérêt. Et ce qui m'a plu, par exemple, avec les NFT, c'est que ça a ouvert l'intérêt à tout le monde. Il y avait des footeux. Il y avait des gens qui aimaient la musique, il y avait des artistes, il y avait des gens qui ne venaient pas de la finance en fait. Alors qu'au tout début, les tout premiers utilisateurs de la blockchain, c'est un mélange entre les techs, les geeks et les financiers. Et c'est vrai que dans les plus gros techs, dans les plus gros geeks et dans les plus gros financiers, c'est vrai qu'on voit rarement une majorité de femmes. Et du coup, ça se ressent beaucoup sur les cryptos.
On fait un peu une petite digression là, mais c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement sur ce podcast, parce que moi, ça a été un énorme sujet d'arriver à avoir des femmes comme invitées sur ce podcast. Est-ce que toi, tu mènes un peu une petite stratégie pour élargir ton public et avoir un public un peu plus féminin, ne serait-ce peut-être dans un souci d'accès global, dans un point de vue politique d'égalité entre les sexes, les genres, etc.
Oui et non. Oui et non dans le sens où je vais commencer par non, je commence par me faire des ennemis. Non, parce que pour moi, ça concerne tout le monde, c'est aux gens de s'y intéresser, et aujourd'hui, je dois vulgariser et expliquer à ceux qui veulent comprendre. Je suis pas là pour aller voir des gens qui en ont rien à foutre, et leur dire « tu dois t'intéresser à ça et je vais t'expliquer ». Déjà, j'essaye de répondre à ceux qui s'y intéressent, et c'est déjà un sacré gros boulot. Donc c'est vrai que je ne chasse pas, enfin à aucun moment, je me suis dit « allez, je vais faire du contenu spécial pour les femmes ». Déjà que je suis sur une niche financière, qui est une niche cryptographique, si en plus je me dis « ok, et je vais adresser que les femmes », Faut avoir envie de faire du contenu, là.
Mais pourquoi distinguer
Non, mais
justement...
tu vois, exemple tout bête, moi j'ai vachement travaillé le sujet avec Charlie Perrault, qui m'a vachement aidé là-dessus, qui est responsable startup aux Échos, et qui me dit, mais en même temps, mec, t'as deux mecs qui animent un podcast, où les trois premiers invités, c'est des mecs. Quand t'es une fille et que t'as l'habitude qu'on te fasse des petites réflexions de temps à autre, même non voulues, etc., forcément, t'es un peu sur la défensive et tu te dis...
C'est vrai, par contre, il y a un truc où à chaque fois que j'ai voulu faire un sujet sur YouTube, un podcast ou parler d'entrepreneur, j'ai toujours voulu la meilleure personne que je connaissais. À aucun moment, je me suis dit, je veux que ce soit un homme ou une femme. Jamais. Je me suis toujours dit, OK, quelle est la meilleure personne dans ce domaine? Et c'est vrai que, comme on est dans le domaine de la finance et qu'il y a une majorité d'hommes, tu veux les meilleurs d'un domaine, c'est souvent des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, mathématiquement, tu vas prendre 10 bons profils. S'il y a 10% de femmes, tu vas avoir une ou deux femmes qui seront là-dedans. C'est pas une question de pertinence, c'est vraiment une question de volume. Et là où j'ai dit mon nom, après je vais dire le oui, jamais je me suis dit, OK, je vais volontairement contacter que des femmes parce que je veux plus de femmes dans... Non, je vais chercher ce qu'il y a de meilleur et après j'essaye de le vulgariser pour que ce soit le plus accessible à tout le monde, cette fois-ci. Parce que pour le coup, pour moi, la blockchain traîne une partie de ses valeurs qui viennent du fait que tout c'est go, l'algorithme, pas de faciès, l'algorithme, il s'en fout de ce que vous avez entre les jambes, il s'en fout encore plus de ce que vous votez politiquement, il en a encore plus rien à cirer de votre couleur de peau. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans la blockchain. Mais c'est vrai que, naturellement, je suis un peu torturé par cette idée de « il faut aller chercher que des femmes pour qu'il y ait plus de femmes ». Je trouve pas ça spécialement juste. Moi, je m'adresse à ceux qui s'intéressent au sujet. À l'inverse de ça, oui, mais si tu continues comme ça et que tu t'adresses qu'à la situation comme elle est aujourd'hui, elle évoluera très peu. Donc, c'est un peu délicat et c'est même plus largement pas qu'une question de hacheur et crypto, une question de ON en tant qu'être humain et dans la société avec les vrais sujets qu'on a. Des fois, je me bats souvent sur des sujets où j'arrive pas à me positionner. Ok, il y a des inégalités, je pense qu'il faut les combattre, je pense qu'il faut communiquer, je pense qu'il faut arrêter, il faut briser des idées reçues stupides. Par contre, commencer à dire, ok, maintenant on doit systématiquement 50-50 et on doit avoir alors tant de pourcentage de la population qui viennent de minorités, tant de pourcentage qui... Je trouve ça dommage de rentrer dans un cadre où, en fait, c'est plus naturel, en fait, c'est pas vrai. Et ensuite, on va nous imposer des cases, des statistiques. Est-ce que ce seront les bonnes cases? Est-ce que ce seront les bonnes statistiques? Et le jour où il y aura une égalité, ben ça aurait créé une nouvelle inégalité. Non, j'essaye d'être fair, j'essaye d'être juste, j'essaye d'être vraiment équitable et de m'adresser à toutes les personnes. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait nos recrutements, comme ça qu'on fait nos équipes. Et pour le coup, on a plus de 10% de femmes dans nos effectifs parce que ce sont des personnes qui se sont battues, mais on a toujours traité à la pertinence et au mérite. Et on n'a jamais vraiment regardé les autres petits détails qui pour nous ne sont pas vraiment des éléments très intéressants, quoi.
C'est important de le souligner. Et dans la même veine, et pour revenir un peu au sujet, est-ce que du coup les crypto-monnaies c'est aussi un élément d'intégration pour les pays qui sont en voie de développement ou qui sont un peu exclus de la mondialisation? Je peux penser aux BRICS par exemple, qui ont été un sujet d'actualité il n'y a pas très longtemps.
Et qui cherchent une nouvelle monnaie d'ailleurs.
Exactement.
Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont proposer. Non, totalement, oui. Oui, et parce que c'était justement des pays qui étaient particulièrement sous le joug de d'autres puissances. D'ailleurs, on le voit bien avec la Russie, hein. Ah oui, ben, enfin, bref, ils sont en guerre avec l'Ukraine. On n'est pas là pour donner un avis là-dessus, ça va être très compliqué. Mais en attendant, tout de suite, qu'est-ce que fait l'Europe? Bon, on ne doit pas rentrer en guerre avec eux, mais on va leur imposer des restrictions financières. Donc, ok, j'utilise votre monnaie, et du coup, vous avez un moyen de me mettre des coups de pression. Pas de souci, j'ai compris. Je n'utiliserai plus votre monnaie. Donc, à un moment, oui, ça permet de l'inclusion, ça permet de l'émancipation. À tort ou à raison d'ailleurs, hein, parce que bah, de temps en temps, c'est bien de savoir qu'on peut contrôler un petit peu et qu'on joue tous la même partie internationale, la même partie macroéconomique. Donc c'est bien que certains respectent les mêmes règles et qu'on se mette d'accord sous un consensus. Mais naturellement, dès qu'il y en a un qui abuse, tu le punis. Comme il est puni, il n'oubliera pas. Donc à l'avenir, il te donnera encore moins de moyens de le punir. Donc il jouera encore moins de jeux. Ça, c'est des questions qui sont basées sur de l'humain, qui sont basées sur du « est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence ?» Est-ce que c'est dur, hein?
Et donc, les cryptos et les monnaies numériques peuvent nous permettre de sortir de ça. Et en même temps, si il y a le dollar qui lance le dollar numérique et que ça devient, que ça prend une importance folle, potentiellement, on recentralise encore plus le débat.
Totalement.
Y a rien d'autre à dire.
Non, en fait, y a rien d'autre à dire, c'est vrai. Là, en fait, c'est très dur parce que, comme je le dis, c'est une surcouche technologique. C'est comme Internet. C'est comme on est au début d'Internet et est-ce que les sites Internet, c'est bien? Ça dépend. Si tu montes un site de vente d'armes, je pense qu'on va tous se mettre d'accord pour dire Internet, c'est peut-être pas nécessaire. Tu me montres un site comme YouTube ou comme Spotify, on va dire, attends, ça rend des services, ça permet de communiquer. Ça va vraiment, vraiment dépendre de ce qu'ils font. Et c'est drôle, mais on peut l'appliquer à tout. La banque centrale et la monnaie numérique de banque centrale. Ça va dépendre de comment elle le paramètre. Un monde décentralisé, ça va dépendre de comment les gens l'utilisent. Et est-ce que les gens sont capables de récupérer la responsabilité avec la liberté financière? Ça va toucher le monde de la musique, le monde de la communication, le monde du sport, le monde de la finance. C'est une surcouche, c'est une façon de gérer de l'information différente. On en avait besoin, surtout à l'ère de l'IA où il y a de plus en plus d'impressions qui viennent de je ne sais quel être humain ou de je ne sais quel algorithme. Pour l'authentification et la sécurité, c'était nécessaire. Maintenant, tout ce qui n'a pas encore été créé, on ne peut que l'imaginer, on ne peut que se faire peur. On ne peut que se mettre des points de vigilance en disant « attention, ça peut être trop centralisé, attention, ça peut être abusif », mais on ne peut pas du tout savoir quelle tangente ça va prendre, quoi.
Et d'ailleurs, pour nos très chers auditeurs, si jamais ils veulent en savoir plus sur le domaine de l'IA, on enregistre un épisode avec ton frère, je crois, avec William Simonin sur justement la place de l'IA dans le son et comment ça change tout ça. Et d'ailleurs, il y a toute une partie prévention sur les deepfakes, parce que c'était le moment où ça commençait à émerger. Donc voilà. Petite parenthèse close, je crois que Inès, tu voulais un peu avoir le regard d'Owen sur l'avenir. Je sais que Owen, tu mets beaucoup de petits tickets dans des startups, dans des projets Web3, etc. T'as un bon deal flow, t'as une belle visibilité. Inès, quelle était ta question là-dessus?
Oui, où va-t-on, Owen? Quelle est ta vision de futur
Alors c'est drôle parce que comme je l'ai dit, il y a eu 20 petites secondes, il y a plein de choses qu'on peut pas voir venir. Le où va-t-on est très dur. Et pour être franc, plus j'avance, comme je le disais, j'ai de plus en plus de convictions, mais moins en moins de certitudes. Donc c'est très délicat. J'aimerais que l'on aille dans un monde plus hybride, où il y aura des solutions financières, mais des solutions un peu plus décentralisées. J'aimerais qu'on arrive dans un monde où chacun va pouvoir investir dans ses combats et comprendre que on peut boycotter le Nutella quand c'était basé sur l'huile de palme, ok. Ça va être pareil pour les produits financiers, ça va être pareil pour les monnaies, ça va être pareil pour le système, et qu'on devra, par l'usage, suivre des investissements, des entreprises, parce qu'on va investir beaucoup plus, je pense, utiliser des monnaies qui nous correspondent plus, avec plus de conviction, et qu'on va, tout comme on l'a fait et comme on commence à le faire sur certains produits de consommation de la vie de tous les jours, commencer à soutenir ou ne pas soutenir, de par notre usage, certaines solutions financières, certaines entreprises, parce qu'on est dans un monde où on va de plus en plus donner la parole à tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'Internet nous invite à faire. Je l'espère, qu'il n'y aura pas de systèmes qui vont venir censurer, alors qu'on a des outils incensurables aujourd'hui comme la blockchain qui se mettent en place, et que l'on va permettre à chacun non seulement de récupérer de la liberté financière, mais en lui rappelant à l'oreille que ça va avec sa responsabilité, et que si on utilise des mauvais outils, on va financer ces mauvais outils. Et qu'on devra prendre le temps de se poser des bonnes questions, pas juste faire avec ce qu'on met dans notre bague le matin en disant « bon, ben j'ai le droit de faire ça, je le fais ». Non, prenons du recul, on a Internet, ça nous permet de réfléchir. S'il y a des choses qui vont mal dans le monde aujourd'hui, la communication, la liberté individuelle dans plein d'endroits est bien plus respectée qu'avant, même si c'est malheureusement pas le cas partout. Mais on a notre capacité de penser, on a également tous le droit d'aller dire des conneries sur Twitter, ce qui nous permet d'ailleurs de nous prendre des claques de temps en temps, mais de se réveiller en mode « bon, ben le monde n'est pas si beau que ça ». Faut pas tomber dans le complot en permanence, mais je pense que c'est bien de se poser des questions et d'accepter d'échanger avec des gens qui sont très ouverts d'esprit et qui vont également donner des points de vue un petit peu différents. Et j'espère toujours qu'on arrivera à créer des solutions qui incluent et qui considèrent plus les gens avec qui on interagit. C'est très très philosophique comme réponse que je viens de vous faire, hein, mais j'aimerais bien rester candide comme ça un maximum de temps.
T'es frustrant, hein, parce que une réponse aussi philosophique, j'ai envie de dire, ça ferait un très beau mot de la fin.
Allez, salut.
Il court chez BFM où il a rendez-vous dans une heure. Un peu plus d'une heure, ça va. Non, mais on commence à faire un beau tour du sujet. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde, ou un sujet que tu abordes pas souvent et que tu aimerais bien aborder pour une fois?
Ouais, c'est...
Question compliquée, je te prends de quoi. Il
y a un truc qui me fait peur. Il y a un truc qui me fait peur parce qu'il y a toujours un décalage quand il y a une nouvelle technologie sur la façon dont elle est acceptée. Je vois mon grand-père, si je lui parle de déclarer ses impôts sur France Connect, il va me dire France quoi ? Qu'est-ce que quoi ? C'est Internet, tu dis ? C'est... Et pourtant, il est sur Facebook toute la journée sur sa tablette, il m'envoie des snaps, un truc lunaire, tu vois, vraiment lunaire. Et il parle à ChatGPT. De l'autre côté, t'as un truc, tu vois, non, vraiment, enfin, c'est très simple, en fait, t'as ton application, t'as un truc, tu poses des questions, tu réponds, tu vois, donc, en fait, ça, la technologie a réussi à très vite te le mettre dans la poche. Moi, je prends un exemple, hein, mon grand-père l'utilise pas directement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile, tu vois, Skype, pour appeler ta famille, très très tôt, il avait. D'un autre côté, il y a plein de trucs dans le numérique qu'il fait pas. Gestion financière, non, il attend la lettre physique à la fin du mois pour avoir son solde en banque. Mais tu télécharges l'appli, tu mets ton code. Quel code? Celui de la Livebox? Non, ok, j'ai compris, papy, on est mort. À côté de ça, je vois mes parents qui ont toujours été très à jour, même mes parents blockchain et tout, très. Maintenant, quand il commence à y avoir un nouveau protocole blockchain, mon père il fait « Ah, j'en ai marre, c'est bon, moi je reste sur Ether, là, j'en ai marre d'aller sur plein de trucs et tout. » Et je fais, en fait, je me rends compte que c'est l'envie qui vient plus. Moi, je suis là, il y a un nouveau protocole, je vais sur le nouveau protocole, c'est génial. Donc, je me rends compte que plus on avance, plus une technologie te permet d'aller facilement à la prochaine. Et la blockchain te permettra d'aller encore plus facilement à autre chose, peu importe. Et l'âge, la vie, fait que quand même, il y a un moment où t'as pas envie d'être à jour toutes les 15 secondes. T'as pas envie de regarder, moi je suis là à regarder les news tout le temps et tout. Moi je vois mon père, en fait, il me fait, écoute, quand je peux couper mon téléphone et pas suivre l'actualité, je sais pas ce qui se passe, hein, mais à part s'il y a un truc gravissime globalement, pas suivre les news pendant une semaine, ça fait du bien, tu vois. Et moi je suis là en mode, non mais faut être à jour, faut ci, faut là, c'est la moindre des choses. Pour il fait, pourquoi ? Pour oublier de vivre ? Et donc c'est un petit peu dur parce que je me rends compte que ça c'est une réalité, mais que la blockchain et beaucoup de responsabilités vont s'inviter, elles vont nous être imposées. Pareil, t'es aux toilettes, en deux minutes on te dit que tu peux acheter des actions Tesla sur eToro. T'es toujours pas un trader, t'es toujours pas un financier, t'es toujours pas capable de savoir si Tesla va monter ou descendre, mais en un seul clic, tu peux acheter des actions de cette entreprise américaine qui peut changer le monde. C'est comme ça que le monde et le marketing te le vend.
YouTube, hein.
C'est 1,34€ la minute. Non, mais ce que je veux dire, c'est assez fou de se dire que c'est pas plus simple d'être un trader ou d'un investisseur, mais c'est beaucoup plus simple d'un point de vue de l'accessibilité de ces outils. Et ça fait peur parce que du coup, il faut vite responsabiliser. Mais la responsabilisation, c'est de l'éducation. Et malheureusement, les meilleures leçons du monde de la finance, tu les apprends quand tu perds. Et j'ai pas envie de dire, je souhaite que tout le monde perde beaucoup d'argent pour vite apprendre. Non, ce serait pas une bonne solution non plus. Et j'ai pas de solution à ça. Je sais également que la blockchain vient avec de la sécurité, de la conscience sur la sécurité informatique, la détention de ses propres mots de passe, la façon dont on va gérer l'information qu'on met sur Internet, qu'est-ce qu'on met, comment, quand, est-ce qu'on peut le supprimer ? Des questions que les gens ne se posent pas, des questions qui vont très très vite, et dans un moment où on a besoin d'éducation sur la sécurité informatique et d'éducation financière, je vois arriver de l'autre côté des outils qui sont dans notre poche beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, alors qu'on n'a pas beaucoup plus d'éducation, et que même quand on aura des bons outils, ça prendra du temps d'éduquer intelligemment.
Pour clôturer cet épisode, j'ai envie de te poser une question.
On y va.
Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas apprendre tout ça un peu plus à l'école ?
Oui, totalement. Ah mais c'est un super système l'école quand même, le truc marche bien tu vois.
Enfin le truc marche bien. Là-dessus.
Non parce que je peux pas être sur tous les combats et c'est déjà trop compliqué, mais il y a des gens qui commencent à se poser la bonne question, c'est une bonne chose. Après t'as également une volonté, est-ce que c'est une volonté que les gens se posent trop de questions sur leur argent, sur leur ci, sur leur là, sur je sais pas. Je serais loin de moi l'idée de dire on veut que les gens soient bêtes pour mieux les gouverner, mais...
Non mais en même temps si... Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, mais en même temps, si tu es un peu calé en finance perso, tu prends pas l'assurance vie de ta banque, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, non, très clairement.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est les banques qui financent les écoles de commerce, etc. Donc,
Non, et puis quand tu finances, tu vas quand même faire en sorte que ça finisse chez toi. Enfin, Et c'est normal, malheureusement, mais c'est super normal. On va pas non plus demander à ceux qui financent le système de proposer les produits de la concurrence. Mais non, Évidemment, pour moi, si l'objectif c'était une santé éducative globale et bienveillante, je pense que la responsabilité financière devrait arriver très tôt à l'école. Très très tôt.
Et est-ce que Inès, il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé ? Une petite question.
Peut-être élargir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de crypto et d'utilisation financière de la technologie générale de la blockchain, mais ce qu'on oublie, que tu as un petit peu évoqué aussi avec les NFT, c'est qu'il y a énormément d'applications possibles. Je pense par exemple à la traçabilité alimentaire, par exemple, toujours autour de la question de la confiance. Est-ce que peut-être qu'on pourrait rappeler, voilà, pour finir, et pour que ce soit aussi plus concret pour tout le monde, à part dans l'application financière ?
En fait, comme la blockchain, c'est une façon de gérer de l'information, elle permet d'innover sur quelques aspects. Le côté scalabilité et le côté disponibilité, le 24/24. J'ai parlé de transactions, mais il y a les transactions financières. Un SMS, c'est une transaction. La blockchain est chiffrée, donc on peut communiquer de façon sécurisée en permanence grâce à la blockchain. Il y a des applications de messagerie. Ça fonctionne 24/24, 7/7, avec une fonctionnalité énorme, quel que soit le pays. Hein, parce que même quand on veut investir en finance, il y a la Bourse de Paris qui ouvre et qui ferme. Blockchain ne ferme pas. Elle fonctionne tout le temps. Il y a l'authentification. Comme on a réussi à avoir des trucs qui sont, grâce à la blockchain, numériques mais uniques, l'unicité, enfin les NFT quoi, ça débloque plein de choses. Alors certes, on peut faire de l'art numérique, hein, mais ce n'est rien d'autre qu'une photo unique. Globalement, un collier de pâte de notre petite cousine de 6 ans, c'était déjà un truc unique. Hein. Et pourtant, j'en ai jamais vu qui se vendait à 15 000 euros. Les NFT, si, parce que c'était un effet de mode. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec quelque chose de numérique et d'unique, ça ouvre plein de portes. L'authentification, la certification, la propriété numérique. Dans un monde où on passe de plus en plus de temps dans nos écrans, pouvoir se dire que tout ce qu'il y a derrière, c'est pas juste un amas de pixels et que ça peut appartenir à quelqu'un, qu'on peut respecter des droits de propriété. Enfin, c'est un changement d'ampleur sur tous les aspects et sur tous les niveaux de ce que l'on fait d'un point de vue numérique aujourd'hui. Donc oui, ce n'est pas uniquement financier. Après, le financier parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'usages qui ont été développés. C'est là-bas que ça parlait à la base. Hein. Bitcoin, le premier nom, c'est quand même peer-to-peer cash electronic system. Donc il y a une volonté de faire de la finance avec, quoi. En tout cas, d'avoir des transactions qui ont un lien avec la monnaie. Donc naturellement, on est parti dans cette direction. Et comme on est parti très tôt dans cette direction, il y a beaucoup plus d'usages et beaucoup plus d'exemples dans cette direction aujourd'hui. Et après, il y a également le fait qu'il y avait un problème bien identifié dans la finance. C'était centralisé. Il y avait eu des abus, on le savait, mais on n'avait pas de solution. Tu sais, on pouvait dire, ouais, en 2008, les banques ont abusé. Ouais, ok, je comprends, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On supprime les banques ? Non, bah alors. Ben alors, on a un problème et il n'est pas réglé. Là, on propose, grâce à la technologie, des alternatives parce qu'on peut se faire confiance sans avoir une personne au milieu qui dit « Non, non, la confiance, c'est moi, tu peux y aller. » Et donc, ça ouvre des portes, mais j'aime le dire, je le dis chaque année et c'est de moins en moins vrai du coup, mais je pense que les plus beaux usages de la blockchain n'ont même pas encore été pensés.
C'est pour ce coup-ci un très beau mot de la fin. En tout cas, merci Owen. Et pour nos très chers auditeurs, parce que j'y pensais là durant ta réponse, tu as abordé la blockchain, les NFT, etc. On a des épisodes sur tout ça. T'es le dernier épisode Web3, je pense, de Tikin Gary, ou un des derniers. Il y en aura peut-être un ou deux exceptionnellement s'il y a un nouveau truc qui naît. Mais pour l'instant, on commence à faire le beau tour. Sur la blockchain, on a Bilal El Alami, que tu connais très très bien, qui a couvert le sujet en long, en large, en travers. Sur les NFT, on a Séraphie de Tracy, que tu connais aussi avec Cohort. Et puis, on a d'autres sujets Web3 que j'oublie, mais j'espère que mes invités m'en foudront pas trop. On commence à avoir pas mal d'épisodes, là, 70 épisodes enregistrés, ça commence à faire un paquet. En tout cas, merci à tous les deux. Si on souhaite vous suivre, on peut vous contacter et vous suivre sur les réseaux sociaux, je suppose.
Tout à fait. Partout.
Partout. YouTube, LinkedIn, Insta.
Oui.
Inès, pareil, sauf YouTube. T'as pas YouTube?
Non, pas encore.
Pas encore. Un jour peut-être.
Un jour peut-être.
Alors j'en profite, hein. Owen, t'es pas abonné à notre newsletter, je crois.
C'est possible.
Ah là là, putain. C'est le newsletter préféré d'Anthony Bourbon.
Ah ouais?
Ouais, Mathieu Stéphanie aussi, il est fan. Faut que tu t'abonnes. On décortique l'actu économique et tech à travers le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à nos très chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et au podcast, à partager tout ça autour de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. À très vite. Au
revoir. Merci à vous.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.